Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Cette semaine dans Univox, on va vous parler de ce qui fait bouger le monde étudiant en ce moment. J'ai nommé les élections des représentants étudiants dans les conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Univox. En novembre, je vote pour le CROUS.
Et oui, c'est avec une petite musique entraînante que le CROUS nous rappelle que du 27 au 28 novembre, près de 2,4 millions d'étudiants sont appelés à élire leurs représentants dans les conseils d'administration des CROUS et du CNUS. Alors, il y a deux ans, lors du dernier scrutin, c'est la liste UNEF et Association étudiante qui est arrivée en tête avec près de 37% des voix, talonnée de près par la liste Bouge ton CROUS de la FAGE. Et cette année encore, c'est une âpre bataille de leadership qui attend les campus, toujours entre l'UNEF et la FAGE. Laure Delaire, bonsoir.
Bonsoir.
Tu es la vice-présidente de l'Union nationale des étudiants de France, donc l'UNEF.
Tout à fait.
Et élue CNUS.
Aussi.
Élue CNUS, donc le Conseil national des œuvres. Et bonsoir Morgane Linares.
Et bonsoir.
Toi, tu es alors la présidente de l'Association générale des étudiants du Midi-Pyrénées. Et donc c'est une association qui est membre de la FAGE, donc
c'est
la Fédération des associations générales étudiantes. Guillaume Consalves, bonsoir. Alors toi, t'es juste membre de la rédaction Radio Campus Paris, et toi, t'es là pour nous éclairer sur le fonctionnement de ces élections et des CROUS en général.
Alors tout d'abord, le CNUS, c'est quoi ? Donc créé par la loi du 16 avril 1955, le Centre National des œuvres universitaires et scolaires a pour vocation de favoriser l'amélioration de conditions de vie et de travail des étudiants. Ce sont plus de 2 millions d'étudiants qui sont appelés à élire leurs représentants au sein du CROUS, les centres régionaux donc. Pourquoi aller voter ? Eh bien car les élus interviennent dans l'élaboration de projets, participent aux prises de décision de leur CROUS et font des propositions afin de respecter les intérêts des étudiants et de la vie étudiante. Par vie étudiante, on entend les logements, comme les résidences universitaires, les aides sociales et les aides d'urgence, comme par exemple les bourses, les assistantes sociales, la restauration, avec le fameux resto universitaire.
Le resto U.
Resto U, voilà. Mais aussi les services culturels, comme les actions culturelles et l'animation des campus. Les représentants sont donc élus pour nous représenter, avec nos idées, nos opinions et surtout nos suggestions. Pendant 2 ans, ils portent notre voix au conseil d'administration du CROUS. Pour voter, rien de plus simple. Soit par vous-même, avec votre carte étudiant, l'original en revanche, car les photocopies ne sont plus acceptées désormais. Soit par procuration, attention tout de même, pas plus de 2 procurations pour une seule personne. La procuration doit être matérialisée par un imprimé numéroté. Cet imprimé est à retirer auprès de son établissement d'enseignement supérieur. Il ne suffit plus de donner uniquement sa carte d'étudiant à la personne qui va voter à votre place. Où peut-on voter ? Eh bien, chaque CROUS affichera très prochainement la liste des bureaux de vote ouverts dans son académie. Ils pourront être situés dans votre fac, dans le fameux Resto U ou dans d'autres locaux de l'université. Rendez-vous donc le 17 novembre prochain en métropole.
Merci Guillaume. Alors Morgane, Laure, on l'a entendu, donc du 17 au 28 novembre, les étudiants vont voter pour leurs représentants. Vous l'avez été pendant 2 ans au sein du CNUS. Alors, avant de revenir bien sûr sur le fond et sur vos projets, c'est quoi être représentant étudiant au sein du CNUS, Laure Delaire ?
Eh ben, tout d'abord, nous, en tout cas, la conception qu'on peut avoir de ce qu'est un élu étudiant et de ce qu'est un élu syndical, c'est évidemment de pouvoir, en s'appuyant sur la mobilisation des étudiants, notamment lors des scrutins, porter les projets qui ont été soumis au vote des étudiants et faire en sorte que les conditions de vie des étudiants puissent s'améliorer.
Et les au sein du CNUS, il y a combien de représentants étudiants sur l'ensemble
8.
Des représentants ? 8.
8 élus étudiants au CNUS. Et dans les CROUS, vous allez retrouver 7 élus étudiants au sein des CROUS. Et donc évidemment, le rôle de ces élus-là, c'est de porter les mesures qui vont permettre l'amélioration des conditions de vie, en tout cas à notre sens, mais c'est surtout de pouvoir être en contact avec les étudiants, de faire en sorte d'être récepteur aussi des problématiques qu'il y a sur les campus, de pouvoir les aider au quotidien. À la rentrée, par exemple, l'UNEF, elle a permis à près de un peu plus de 2000 étudiants de faire une demande de bourse parce qu'ils avaient passé le délai.
Parce qu'ils étaient en retard.
Qu'ils étaient en retard sur la demande. Bah, ça sert aussi à ça, les élus syndicaux de l'UNEF, à aider au quotidien les étudiants.
Morgane, concrètement, qu'est-ce qu'on vote au CNUS ?
Au CNUS, ça va être déjà d'une part la grosse problématique du budget, puisque aujourd'hui les budgets des CROUS sont répartis au sein du CNUS. Et c'est vrai que c'est une bonne question parce que ça c'est une problématique qui est très importante parce que ça va permettre aux CROUS de mettre en place certains projets, notamment de restauration. Et pour vous donner un exemple de la revendication des élus étudiants au sein du CNUS, pour le coup, c'est par exemple cette année où on nous propose un budget en baisse de 6,6 millions d'euros sur la restauration.
Évidemment, vous n'êtes pas content.
Évidemment, on n'est pas content. Après, la FAGE a été la seule organisation à s'opposer à ce budget qui prévoyait une baisse des tarifs, notamment, enfin, une baisse en tout cas de la subvention allouée à la restauration. Après, ça, j'ai envie de dire, c'est pas anecdotique. Mais en tout cas, ça fait partie des revendications qu'on peut tenir. Après, il va y avoir aussi toute la question du ticket rue. Le ticket rue qui augmente chaque année, là, pour le coup.
Donc, c'est... juste rappeler, au CNUS, on vote le prix des restaurants universitaires, au CROUS, le prix des cafettes, c'est ça? Ou je me trompe?
Le CNUS, malheureusement, n'a qu'une voix consultative sur le TICRU.
Donc, de manière consultative, fin, en tout cas, on vous demande votre avis.
En tout cas, on nous demande notre avis et à chaque fois, on le donne. Pour le coup, c'est
le gouvernement est passé plusieurs fois en force. Et
bien sûr, alors même que parfois le CNUS s'y opposait et que c'était pas seulement la volonté des élus étudiants.
Laure Delaire, toi, en tant que représentante de l'UNEF, t'étais pour qu'on augmente le prix du TICRU?
Absolument pas. Et du coup, l'UNEF a pris souvent position sur la non-augmentation du prix du ticket restaurant. Ça reste une revendication de l'UNEF, notamment le gel de ce qu'on appelle les dépenses obligatoires, dont notamment le prix du repas. À deux reprises, on avait réussi justement à dégager un vote majoritaire au sein du CNUS pour demander à l'État de ne pas augmenter le ticket russe. Ça n'avait pas été respecté.
Donc vous avez, en tant que représentant, des bilans. Et là, je vais me tourner vers vous, Morgane. Quel est le bilan des élus FAGE, en tout cas au niveau national, au CNUS? Commençons par le CNUS.
Écoutez, je pense que si vraiment il y a quelque chose à retenir cette année en termes de bilan, c'est cette réforme des aides sociales demandée par les organisations étudiantes depuis longtemps. Ça a été une grosse victoire de la FAGE déjà d'obtenir cette réforme qui a commencé l'année dernière, qui s'est poursuivie cette année avec la création donc de deux échelons supplémentaires,
donc l'échelon 0 bis et l'échelon 7.
Et l'échelon 7 avec une aussi révélation des bourses. Et donc du coup, nous, ça a été une grosse victoire. Pourquoi? Parce que c'est le premier pas qu'on a vu vers la revendication principale en termes d'aide sociale de la FAGE, qui est l'aide globale d'indépendance.
Alors donc, là, on va y revenir un peu plus tard quand on va parler des projets. On aura le temps d'y revenir. Laure Delaire, toi, ton bilan, qu'est-ce que tu as défendu, toi, dans les conseils
Ils ont été nombreux. C'est vrai que l'UNEF, il y a 2 ans, aux dernières élections au CROUS, était arrivé avec un projet qui demandait à transformer le système d'aide sociale. On avait réussi, par la mobilisation des étudiants, à faire en sorte que le gouvernement remette sur la table le système de bourse, sa manière dont il fonctionne et les possibilités de l'améliorer.
Et qu'est-ce qui a été mis sur la table ?
On avait justement, donc la négociation était ouverte et nous on avait mis sur la table le fait qu'il fallait un investissement de 200 millions d'euros dans le système d'aide sociale.
Ce qui a été obtenu.
C'est bien ce qu'on a obtenu.
Est-ce que la FAGE a demandé 200 millions d'euros ?
La FAGE demandait une révélation totale de l'ensemble des bourses.
De 90 millions d'euros.
Ensuite, non, ça c'était une révélation totale de l'ensemble des
c'était
bourses.
C'était une revendication
des 90 millions d'euros, c'était la revendication...
C'était une revendication de la FAGE en 2013, donc un peu avant ce que va donner le gouvernement.
Exactement.
Donc, en deçà de ce que tient le gouvernement.
La revendication de la FAGE était un investissement de 90 millions d'euros pour la création seulement de l'échelon 0 bis, qu'on a été les seuls à demander et qu'on a réussi à obtenir, notamment pour ces étudiants-là qui se situent un petit peu en bas de la courbe... trop riches pour avoir des aides sociales adaptées, trop pauvres pour pouvoir vivre correctement. Donc ces 90 millions d'euros...
Ils sont remboursés leurs frais d'inscription, juste pour préciser.
À l'origine, ils étaient remboursés
et qui aujourd'hui gagnent...
Touchent 100 euros par mois. Donc voilà, ça a été vraiment une victoire et c'est la FAGE, c'est bien ça qu'elle demandait. En plus, donc, du coup, de la revalorisation entière de l'ensemble des échelons de bourse.
Et donc cette revalorisation, Laure Delaire, pour toi, elle était suffisante? Est-ce que c'est allé dans la droite lignée de ce que demandait l'UNEF?
Et donc pour continuer, donc 200 millions d'euros qui ont été obtenus, qui ont permis justement ces 200 millions d'euros, en effet, d'intégrer deux nouveaux échelons de bourse, l'échelon 0 bis et l'échelon 7, comme ça vient d'être expliqué, qui ont permis aussi d'obtenir le dégel des bourses, ce qui a été quand même une vraie victoire de l'UNEF. C'est-à-dire que depuis 2009, les bourses étaient gelées. Elles ont été dégelées au lendemain du scrutin électoral il y a 2 ans. Et puis évidemment, les batailles, elles sont nombreuses. Je peux en citer une emblématique qui sont dans le bilan de l'UNEF. C'est notamment sur les APL. Il ne faut pas oublier que le gouvernement avait prévu de supprimer les APL, notamment pour les étudiants non boursiers.
Alors comment
C'était
vous
la
avez
seule
obtenu
qu'ils avaient,
que le gouvernement recule sur les APL concrètement lors de l'ère, sachant que c'est pas vraiment ce qu'avait proposé le gouvernement, en tout cas pas de manière officielle. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement.
Il y a eu plusieurs étapes sur les APL. On a eu en effet au moment du scrutin des élections étudiantes la première proposition qui était finalement de mettre les APL en fonction du revenu des parents. Là, à nouveau, on avait des étudiants qui potentiellement pouvaient perdre leur droit aux aides. Et donc, du coup, l'UNEF, elle s'est saisie du fait qu'on est sorti en effet première organisation étudiante, qui a eu une forte mobilisation qui soutienne le projet de l'UNEF pour empêcher ce projet-là, et c'est notamment à travers différentes manières, soit par les pétitions qu'on peut faire signer sur les campus, en interpellant directement la ministre par ailleurs au congrès de l'UNEF, ce qui avait été l'occasion d'annoncer la réforme des bourses en même temps, et puis en lançant la
aussi c'est nouveau les réseaux sociaux, c'est assez nouveau, il y a une
et les réseaux sociaux qui a été la deuxième tentative en tout cas d'attaque sur les APL, qui était finalement après coup de les mettre uniquement pour les étudiants boursiers, bah là l'UNEF en effet a créé une page qui a...
Ça ressemblait ramené... combien de likes? Parce que c'est important les likes aujourd'hui.
Likes à peu près, on était à un peu plus de 9000 likes.
En quelques jours.
Et c'est à ce moment-là en effet, quand on expliquait au gouvernement que si le gouvernement n'avait pas de tabou sur les appels, nous n'en avions aucun sur la mobilisation, que le gouvernement en effet annonçait le retrait de ce type de mesure.
Donc, et donc Najat Vallaud-Belkacem nous dit, bah non, en fait finalement on n'a jamais vraiment voulu revenir sur les appels. Morgane, vous avez fait quoi vous sur les appels?
Au final, pour revenir vraiment sur cette question-là, les APL, quand on nous dit qu'il n'a jamais été question de les supprimer, on peut pas être d'accord avec ça, parce que ça a été clairement annoncé, et c'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des organisations étudiantes sont allées à la mobilisation.
Elles ont vraiment pesé de la même manière, vous dites, nous, la FAGE, on a pesé de la même manière que l'UNEF, qui rassemble 9000 likes en 3 jours.
Je pense qu'aujourd'hui, ce qui était important de montrer, c'est que déjà d'une part l'ensemble des organisations étaient mobilisées, et je pense que ça c'est ce qui a fait que ça a pesé sur la balance. La FAGE a mobilisé son réseau, la FAGE a mobilisé l'ensemble de ses militants et notamment ses 300 000 adhérents pour en disant qu'aujourd'hui la FAGE en tant que première organisation, mais aussi via les réseaux sociaux beaucoup. C'est vrai que nous ça fait des années que les réseaux sociaux on les tient dans le sens où vraiment notre communication dessus, parce que c'est aujourd'hui un des moyens de mobiliser les étudiants, mais c'est aussi en allant sur les campus via l'ensemble de nos fédérations territoriales qui sont sur place.
Donc concrètement, aujourd'hui, tous les étudiants peuvent avoir droit à une caution solidaire. Boursier, pas boursier.
Il faut faire la demande.
Il faut juste faire la demande, et ça, c'est les élus CNUS qui ont obtenu ça. Morgane peut réagir.
Oui, très bien. Mais oui, parce que sur ce logement, c'est une grosse problématique. Quand on sait qu'aujourd'hui, le logement, ça représente un taux d'effort pour les étudiants de 50%. Je m'explique. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des revenus des étudiants, il y en a la moitié qui part donc sur le logement. Et là, la FAGE a réagi, notamment sur la question donc du logement des étudiants, avec d'une part le logement public géré par le CRUS, ou ce fameux plan 40 000 qu'on suit de près et qui touche...
Qu'on attend et surtout qu'on essaye de
faire avancer, mais avec des budgets qui gèlent ou qui baissent, c'est toujours pas facile. Maintenant, il y a aussi la question du logement privé. Et donc, du coup, vous l'avez très bien dit, la question donc du coup de cet encadrement des loyers sur lequel
rapidement, parce
le
qu'on
gouvernement
30 ans sur le logement mais rapidement
oui mais sur lequel le gouvernement est revenu. Au final, le gouvernement nous a laissé une brèche en disant que les métropoles qui voulaient mettre en place cet encadrement des loyers pouvaient, si elles le souhaitaient, y rentrer. Et donc au final, c'est comme ça qu'on voit la mobilisation aussi des fédérations territoriales de la FAGE, avec l'exemple de Nantes par exemple, Interasso Nantes adhérente à la FAGE, qui a interpellé du coup la présidente de la métropole de Nantes, mm-hmm. et qui a réussi à obtenir l'encadrement des loyers des petites surfaces, sachant que les petites surfaces sont celles qui proportionnellement sont les plus chères et les plus prises par les étudiants. Donc ça a été de grosses avancées qu'il faut savoir tenir au niveau du local. Si le national au niveau du gouvernement lâche, ça sera au niveau du local qu'il faudra mobiliser, et c'est là où la FAGE a mobilisé sur la question de l'accès à un logement autonome pour les jeunes.
Je vous ai entendu murmurer, c'est pas si sûr lors de l'heure, expliquez-vous.
C'est un peu plus compliqué que ça sur Nantes. Il y avait un débat sur l'encadrement des loyers. Il y a une prise de position un peu ambiguë qui a été prise à Nantes. Pour l'instant, il n'existe pas l'encadrement des loyers à Nantes. Il y a des conditions qui ont été posées, qui sont toujours pas respectées. Et donc, en effet, c'est une bataille permanente. On avait notamment... d'ailleurs qui existe toujours et chaque étudiant peut s'y rendre. Un site internet qui s'appelle encadremonloyer.com qui vise notamment à interpeller les mairies.
Vous utilisez le terme, un terme qui revient souvent, c'est galère. On galère pour payer notre loyer, on a besoin d'aide et vous interpellez les politiques grâce à ça.
Tout à fait. Et c'est ça peut-être aussi l'enjeu des élections qui sont devant nous. Et c'est pour ça que l'UNEF, on cherche aussi à faire de cette mobilisation-là électorale un référendum, parce que c'est une élection un petit peu particulière. C'est une élection, c'est la seule élection d'ailleurs dans tout le scrutin où l'ensemble des étudiants vont voter en même temps, donc sur deux semaines, comme ça a été dit au début. Et donc c'est le moment aussi de montrer et d'envoyer un message qui soit extrêmement clair, qu'on refuse aujourd'hui la situation de précarité qui nous est imposée et qu'il faut changer le système de protection sociale pour les étudiants. Ouais,
parce que sur le constat sur le système, vous êtes d'accord. Alors je vous cite pêle-mêle, insuffisant, injuste, illisible. Pourquoi on en est là, Morgane? Pourquoi aujourd'hui il y a un système qui ne fonctionne pas, qui met beaucoup d'étudiants à la marge des aides, qui les met dans la précarité, et pourtant il est, depuis une bonne cinquantaine d'années, il est toujours le même?
Je pense que c'est tout simplement par un manque d'une politique volontariste en faveur de la jeunesse. Et c'est pour ça aussi que la FAHV, ses élus Bouchon-Crous, militent aussi. C'est pour vraiment que le gouvernement fasse un pas vers les jeunes. Donc ce pas-là, il a déjà commencé à être fait avec cette réforme des aides sociales qui a commencé et qui doit continuer. Et donc aujourd'hui, si on en est là, c'est parce que déjà d'une part, il y a eu la démocratisation de l'enseignement supérieur.
Ça,
aujourd'hui,
on retrouve ce terme chez vous.
Voilà,
deux
on est plus de 2 400 000 étudiants, donc du coup c'est pas la même université qu'il y a deux ans. Et donc du coup évidemment que les problématiques sont pas les mêmes. On a des étudiants qui font partie des classes sociales qui ne venaient pas avant à l'université et qui maintenant ont le droit de pouvoir étudier à l'université. Donc c'est tout ce nouveau public qu'il faut prendre en compte et c'est pour ça que aujourd'hui on est d'accord sur le fait que les aides sociales ne sont pas adaptées et sur le fait qu'il faut les réformer.
Tu es d'accord?
Nous, on a une approche, en effet. Le système d'aide sociale, aujourd'hui, la manière dont nous, on pense pourquoi il ne fonctionne pas et pourquoi il n'est pas bon. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on est jeune en France et quand on est étudiant, on est exclu globalement du système de protection sociale en France. C'est assez simple, ça fonctionne comme ça dans le pays. Chacun cotise, met dans le pot commun, puis cet argent, il est un peu redistribué pour aider notamment les individus quand ils sont dans des situations difficiles de précarité. Les retraités, par exemple, quand ils n'ont plus accès à leur salaire, on met en place le système de retraite. Quand on est salarié, qu'on est au chômage, par exemple, il y a le système du chômage, il y a le RSA qui intervient. Et puis dès qu'on a moins de 25 ans, dans ce pays-là, malheureusement, il n'y a plus rien. Moins de 25 ans, on n'a pas le droit au RSA, même si on est, chômeur, qu'on n'est pas forcément étudiant. Et puis moins de 25 ans, quand on étudie, la société ne considère pas que étudier, c'est un droit qui doit nous permettre, qui doit du coup faire en sorte que la solidarité dans le pays, elle nous protège. Et c'est tout l'enjeu pour l'UNEF.
Et vous l'avez
faire un statut social pour les étudiants pour leur permettre d'être protégés.
Et un statut avec le volet particulier, le volet financier, qui est l'allocation autonomie. On va revenir dans deux minutes, mais avant, il y a quelques mois, vous avez édité votre baromètre de la vie étudiante. Et là, vous êtes rendu compte que ça allait vraiment pas, que c'est les étudiants qui vous le disaient à travers leurs réponses.
Tout à fait. Alors nous, on a deux types d'enquêtes, qui est le baromètre sur les conditions d'études des étudiants, où ils ont répondu à un certain nombre de questionnaires, y compris des questions qui avaient attrait à leur vie aussi sociale, à leurs conditions de vie. Mais en réalité, les chiffres de l'UNEF, ils sont les mêmes qu'on peut retrouver un petit peu partout sur les conditions de vie des étudiants. C'est des étudiants qui galèrent pour payer leur loyer, c'est des étudiants qui galèrent pour payer leurs frais d'inscription, c'est des étudiants qui sont salariés à côté de leurs cours et qui n'arrivent pas à assister à l'ensemble des cours et qui galèrent au moment des partiels. Et que ça nécessite une réponse. Et c'est là où on en vient justement au projet de l'UNEF, c'est que le système de protection sociale, que la société en règle générale, elle prenne ses responsabilités et qu'elle considère que étudier, c'est pas un privilège, que c'est un droit, que ce droit, il s'arrête pas au collège et que du coup, il faut aussi donner les moyens aux jeunes de pouvoir étudier correctement.
Et vous, à la FAHV, on va bien sûr revenir sur la question d'autonomie, vous proposez l'aide globale d'indépendance. Alors, vous êtes pour, à la FAHV, j'ai cru comprendre, pour la simplification, mais moi, j'ai pas vraiment tout compris dans l'aide globale d'indépendance. Est-ce que Morgane, tu peux bien m'expliquer tout ça? Comment ça fonctionne?
Je pense que déjà le mot simplification, c'est un petit peu pour résumer ne serait-ce que la partie administrative. On est à la FAHV via les élus Boucheton-Crous, donc pour un vrai choc de simplification administrative, c'est-à-dire un seul dossier étudiant, donc unique, qui reprend l'ensemble des aides sociales pour les étudiants.
Et géré par le Crous?
est géré et par le Crous qui doit être l'interlocuteur unique. Évidemment, on n'est pas attaché au Crous comme étant juste l'acteur historique, parce que c'est vrai que les associations étudiantes ont eu leur responsabilité dans la création du Crous, hein, puisque d'abord la restauration, la question du logement et tout ça, c'est parti des associations étudiantes, et après ça a été fédéré au niveau national dans le réseau des œuvres.
C'est juste parce que c'est pratique.
Mais c'est juste parce que c'est pratique, et c'est surtout parce que aussi les étudiants ont leur place dedans. Avec 7 élus, ça fait quand même un tiers de représentation pour les étudiants. Donc l'aide globale d'indépendance, c'est ça, c'est ce choc de simplification. Un seul acteur, donc le Crous, un seul dossier, le dossier unique de vie étudiante. Et dans ce dossier, du coup, il y a deux parties qui sont distinctes. Une partie d'aide sociale directe.
Direct.
C'est l'équivalent des bourses actuelles qui, comme on l'a dit.
Alors, l'équivalent des bourses actuelles, qu'est-ce qui change par rapport aux bourses actuelles? Non, on est d'accord, ça fonctionne pas.
Bah, déjà, il y a plusieurs choses. Je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre la situation propre de chaque étudiant. Il y a des étudiants indépendants de leurs parents, il y a des étudiants qui ne le sont pas. Et ça, c'est la première chose. Donc, et la deuxième chose, c'est de dire, aujourd'hui, les étudiants qui ne sont pas indépendants de leurs parents, ils sont évalués sur des critères avec un effet d'échelon. Donc du coup, on est échelon 1, on est échelon 2.
Là, vous voulez casser ces échelons pour faire quoi ?
Mais tout simplement, c'est pour rendre les aides sociales plus justes et faire qu'il n'y ait pas des disparités énormes. Cet étudiant-là, dont les parents vont gagner 50 euros de plus par an et qui va se retrouver avec une centaine d'euros en moins par mois. Voilà, c'est à cet étudiant-là qu'on veut penser, sachant que c'est aussi inscrit dans l'aide globale à l'indépendance que l'étudiant qui souhaite être indépendant de ses parents puisse le devenir. Et c'est quoi un étudiant indépendant aujourd'hui ? Et je pense que c'est sur ça que il peut y avoir des incompréhensions. Mais aujourd'hui, un étudiant indépendant, c'est un étudiant qui est décohabitant, c'est un étudiant qui n'a plus.
D'accord, donc
ses
il
parents.
Va gagner combien ? Parce que moi, quand je lis par exemple que le plafond est de 460 euros pour l'aide directe, moi je sais que l'échelon 7 il est de 550.
Non, donc on va toucher. Le plafond n'est pas de 470 dans l'aide globale à l'indépendance, c'est-à-dire.
Je lis votre donc, dossier, coup, je vous le montre même.
Mais c'est le dossier dans ce cas, c'est celui de 2012. Donc
vous avez changé d'avis depuis ? Vous êtes
rendu compte
que
d'avis, c'est-à-dire
que 460 euros c'est pas assez, c'est ça ?
C'est-à-dire que c'était fixé sur l'échelon maximum de bourse, qui à l'époque était à 420 euros puisqu'il n'y avait pas d'échelon 7.
Donc on se fixe par rapport à la bourse, donc on ne peut pas. Renouveler la bourse,
la FAGE, les élus Bouchon-Crous militent pour de toute façon une revalorisation des bourses qui ont été gelées pendant des années, et donc du coup là sur ça il y a pas de souci. Maintenant voilà, il faut mettre les dossiers à jour. Aujourd'hui,
on se base aussi sur l'échelon maximum dans vos propositions aussi. Si moi je
bien sûr, mais c'est totalement cohérent de dire qu'aujourd'hui on veut se baser sur l'échelon maximum pour l'aide maximale.
D'accord. Et pour l'allocation d'autonomie lors de l'heure, qu'est-ce que c'est l'allocation d'autonomie que vous prenez depuis des années hein?
Voilà, ça fait quelques temps que l'UNEF, elle revendique cette allocation d'autonomie. Allocation d'autonomie, le principe est simple, c'est qu'on refond le système d'aide sociale et on donne une aide. Donc une aide qui soit universelle, c'est-à-dire que tout le monde a le même droit d'accéder à cette aide, que ce soit nous-mêmes ou notre voisin d'amphi, que cette aide, elle doit être d'un montant qui doit permettre à chaque étudiant, justement, j'en parlais juste avant, de pas avoir à subir le salariat étudiant ou de pas avoir à dépendre de ses parents. Et puis surtout, cette aide, elle est donnée en fonction de la situation propre des étudiants, puisque le problème aujourd'hui, c'est que le seul critère qui existe dans le système de bourse, c'est le revenu de nos parents. C'est malheureusement pas nos parents qui sont dans les amphis. Malheureusement aussi, nos parents, ils subissent la crise comme tout le monde. Et ils ont de moins en moins de moyens, mais qu'on regarde la réalité de ce que vit un étudiant, de quels sont ses revenus et qu'on lui attribue une aide en fonction de sa situation propre. Ça, c'est la
donc concrètement, cette aide, pour nous donner une fourchette et une idée, moi demain je suis étudiante, l'UNEF gagne, on a l'allocation d'autonomie, je gagne combien par mois ?
On estime aujourd'hui, on se fixe sur le montant moyen qui est déterminé par l'OVE pour vivre.
Alors, qui est 900 euros.
800, 900, voilà, ça dépend un petit peu à chaque fois des enquêtes, mais à peu près 900 euros par mois. Et donc ça, c'est le montant de l'allocation d'autonomie qui est calculé en fonction de la situation propre ensuite des étudiants, évidemment. S'il a d'autres sources de revenus, c'est pas la même chose. Ou s'il y a des transferts familiaux,
d'accord.
Par exemple, c'est pas
donc
la même chose.
Donc on va calculer la situation propre de l'étudiant, donc c'est l'idée centrale d'autonomie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée d'autonomie ? Parce qu'on dans l'aide globale à l'indépendance, on revient sur la situation des parents. C'est-à-dire qu'on reste dans ce schéma-là où c'est papa-maman qui va me dire combien moi je vais gagner en tant qu'étudiante.
Je pense qu'il faut bien comprendre, l'aide globale d'indépendance, c'est une aide qui regarde la situation propre de chaque étudiant. Et je pense que c'est là où, à un moment donné, il ne faut pas sombrer dans le populisme avec des propositions qui peuvent comme ça paraître comme étant, on va dire... L'aide universelle, très bien. L'aide universelle,
elle est individualisée, d'après ce que j'ai compris. C'est-à-dire que c'est selon la situation de l'étudiant. c'est pas universel.
Non, c'est-à-dire une aide universelle. Enfin, sauf si l'heure, je sais pas compris, l'allocation d'autonomie est une aide universelle. Ce que je comprends, puisque au fait, au final, dans notre aide au logement, parce que c'est le deuxième volet que j'ai pas eu le temps de présenter tout à l'heure et je vais le présenter très brièvement,
c'est les APL, en gros,
refondre les APL. Aujourd'hui, les APL, c'est pas juste comment elles sont faites parce qu'elles sont faites en fonction du loyer. Le loyer, il est fait en fonction de la surface et du lieu de vie. Donc, plus je paye cher mon appartement, plus j'ai des aides, plus j'ai les moyens de payer un logement cher et plus j'ai des aides. Nous, ce qu'on veut, c'est une aide universelle d'accès au logement parce que pour nous, l'accès au logement autonome, ça doit être un droit pour les étudiants. Et là où je reviens, donc tout à l'heure, je parlais de la situation d'indépendance des étudiants. Et donc, un étudiant indépendant, c'est quoi? C'est un étudiant qui a accès à son logement autonome. Donc, aujourd'hui, quand on regarde l'aide globale d'indépendance, c'est une aide qui est centrée sur l'étudiant et sur sa situation.
Et sur l'APL. Donc, on touche l'APL selon le montant du loyer seulement. C'est ça l'idée.
Non, ça, c'est comment elle fonctionne aujourd'hui. L'aide globale d'indépendance, c'est une aide universelle en fonction seulement du bassin de vie. C'est-à-dire à Paris, les logements, c'est cher. Et ben,
selon le
prix moyen, après, on pourrait parler.
Mais revenir sur le terme universel. Est-ce que, par exemple, moi, je suis étudiante étrangère, est-ce que j'ai le droit à l'aide globale individualisée?
La question des étudiants étrangers, c'est vraiment une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs écoles, j'ai envie de dire. Si on va, par exemple, dans des pays comme l'Allemagne ou la Suède, ils ont un enseignement supérieur qui est gratuit avec deux visions totalement différentes et des étudiants qui, étrangers, hein, ou internationaux. Moi, je préfère le mot international à étranger. Mais ces étudiants-là, ils touchent une aide qui vient. Donc ça a été une politique volontariste de l'État. La question, c'est de voir qu'est-ce que nous, on veut en France. C'est qu'aujourd'hui, quel moyen on veut donner à nos ambitions. Et le problème de l'accueil des étudiants internationaux, il doit être très global. Je prends l'exemple donc, de la ville
c'est-à-dire,
de Toulouse.
C'est-à-dire, moi, je suis étudiante étrangère. Est-ce que moi, je peux toucher votre aide ou pas? Oui, non.
L'aide globale d'indépendance. Aujourd'hui, il y a des aides au CROUS qui existent pour les étudiants internationaux. Bah, aujourd'hui, c'est pas l'aide globale d'indépendance qui correspondra à un étudiant international. C'est pas l'aide
globale
d'indépendance.
Donc, les étudiants étrangers ne galèrent pas, ne sont pas les premiers à aller postuler pour le FNO.
Attention, ne pas caricaturer.
Il y a quand même énormément d'étudiants étrangers qui demandent un FNO, par exemple.
Et ça, c'est un problème. Parce que le FNO, ça doit être une aide
d'urgence.
La question, c'est comment les gouvernements qui sont donc du coup ailleurs et qui envoient entre guillemets ces étudiants à l'international, donc du coup qui leur permettent
c'est la responsabilité du pays d'origine. Merci beaucoup Laure Delaire, vice-présidente de l'UNEF, et merci beaucoup Morgane Linares, membre de la FAGE, présidente de l'association
La GEMP.
La GEMP, voilà. Merci beaucoup, merci d'avoir été. Merci beaucoup.